C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Comment ça va tout le monde? On est rendu en avril, tranquillement. Printemps tardif, tout le monde.
La piscine est prête.
Oh, tabarnouche, t'es en avance, là.
J'ai jamais été autant en avance.
Je suis pas rendu là, moi. Mais c'est quand même agréable. J'ai fait mes premières sorties de vélo en fin de semaine. On en a profité un petit peu.
Ben, il faut, parce que je sais pas si tu te souviens l'an dernier, mais avril était très chaud, puis mai, c'était glacial.
Oui, je sais. Alors, bon,
souhaitons,
voilà, on va le prendre pendant que ça passe. Vous êtes évidemment à l'émission Ça tient la route en compagnie d'Alain Mécana. Cette semaine, Alain, on va évidemment voir nos actus. On a un invité fort intéressant et qui va répondre à une question que
épineuse,
c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les gens qui aimeraient avoir un véhicule électrique qui demeure en copropriété, en condominium, au troisième étage dans Montréal, Québec, Gatineau, les villes où il y a... Alors, on a une société qui est à Montréal qui s'appelle RVE, et on va avoir son président avec nous, David Bernard, qui va nous
parler... Corbeil.
David Corbeil, qui va nous parler justement de cette entreprise-là. Ça va être un petit peu plus tard, tantôt. Et Alain nous a sorti son sens de l'humour pour parler de la Nissan Versa. J'en dis pas plus long.
Écoute, j'ai juste hâte de l'en parler.
Moi, je vais vous parler du Mazda CX-9. Donc, on reste dans des modèles accessibles. Là, on n'ira pas s'épivarder dans des prix trop élevés cette semaine. Et évidemment, on va commencer l'émission comme à chaque semaine avec nos actualités. Alain, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine?
J'ai un rapport d'une compagnie de Boston qui s'appelle RepTrack, qui fait un bilan, en fait, qui a fait un sondage international, qui a fait une recension des médias pour établir quelles sont les marques, les noms d'entreprises les plus réputés au
monde. Quand tu parles d'un sondage international d'une compagnie américaine, est-ce que tu parles des États-Unis ou ils ont été ailleurs?
Non, justement, non, c'est ça la beauté de la chose.
Parce que les Américains ont tendance à s'internationaliser pas mal.
Non, ça serait prévisible, sinon ce serait genre Apple, Tesla, Google.
Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est une société donc qui s'appelle RepTrack qui le fait de façon régulière et vient de publier l'édition 2021 d'un long rapport combinant des sondages, comme je viens de le dire, un combo, c'est ça qui rend la chose un peu plus magique, c'est qu'il y a aussi un petit peu de revues médias pour combiner tout ça ensemble. Et évidemment, dans les 100 noms d'entreprises, il y a des entreprises du secteur automobile qui sont incluses.
Et ce n'est pas seulement automobile, il faut le dire. Là.
Non, c'est
des noms d'entreprises at large. Là.
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme tu viens de le remarquer, effectivement, on a droit à une étude de réputation mondiale et non états-unienne. Ce qui fait franchement du bien.
Oui, oui, surtout venant des États-Unis.
Justement, Apple, qui est toujours au sommet de toutes les affaires de tous ces sondages-là, d'habitude, arrive au 46e rang de ce sondage-là seulement.
Ah oui, mon Dieu, c'est loin, ça.
Et c'est la première, celle qui arrive en haut, celle qui a la meilleure réputation. C'est-à-dire, c'est un mélange de confiance, de fiabilité et de en anglais, on dit un trust. Là, c'est
de perception, je pense.
Ouais, ouais, Lego arrive en haut. L'arrive au sommet, numéro un.
Donc, OK, Lego.
C'est quand même, tu sais, c'est différent.
Lego, une petite compagnie danoise, bien connue d'ailleurs.
Alors, dans la mode, la plus grande tradition des comptes à rebours à l'envers, je sais pas si ça se dit, les compagnies automobiles présentes, il y en a quelques-unes. Il y a Tesla, qu'on aurait imaginé dans le top 10 facilement si ça avait été américain là, comme sondage, arrive au 56e rang.
OK.
Derrière, quatre marques de pneus qu'on reconnaît probablement plus à cause de leur présence en course automobile qu'autre chose. Là. Pirelli, Michelin, Goodyear et Bridgestone.
Oui, ouais. Qui fait du sens.
Qu'on s'entend. BMW arrive 23e.
OK.
Harley-Davidson arrive 5e. On s'entend.
5e, OK.
Parlons d'auto à deux roues.
Ouais, oui, mais Harley-Davidson se vend partout sur la planète.
C'est une marque.
C'est un avantage parce qu'il y a des marques qui ne sont pas encore internationales, donc qui n'ont probablement pas une grande perception dans des pays où on n'a pas le produit, là, effectivement.
Effectivement. Et je vous laisse 3 secondes pour penser à qui pourrait être la marque, laquelle marque pourrait être la plus connue dans l'automobile au monde et la plus réputée.
Ben là, je l'ai devant moi, fait que je ne dirais pas. Mais ça fait du sens, honnêtement.
Et c'est Ferrari. Vous aurez compris, évidemment, que ça a très peu à voir avec la fiabilité ou la durabilité des produits. C'est vraiment une question de rayonnement et
Tout
le monde aspire, dans le fond, à avoir une Ferrari. Fait que c'est un peu ça que ça veut dire.
Est-ce qu'on a mis Jeep quelque part là-dedans?
Ils sont pas là.
Ils sont pas en tout.
Ils sont pas là.
Pas en tout. Ah non!
C'est vraiment ça qui est étonnant, c'est que, évidemment, nous, on parle d'automobile, on couvre le secteur. C'est partout, mais effectivement, d'une perspective plus globale, on se rend compte que, c'est peut-être pas aussi important. Et des marques, pourtant, exactement, tu le dis bien, Jeep, qui est une marque forte en Amérique du Nord, Mais quand on voit les marques présentes, on parle des compagnies de pneus à cause de leur présence en course automobile. Donc, c'est pas des gens qui trippent auto.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que là, on parle à l'échelle mondiale. Mm-hmm. Donc, de voir ce que notre réalité n'est pas transposée ailleurs. Là,
son cloche différent, effectivement. Puis,
mais Ferrari est connu partout.
Ben, c'est ça qui arrive. Et petit détail intéressant, d'ailleurs, l'industrie automobile arrive 7e parmi toutes les industries qui ont la meilleure réputation dans le monde, derrière les technos, comme Apple, Google, on en parlait tantôt. L'alimentation, donc les grandes chaînes alimentaires. Et loin devant les banques et les sociétés pharmaceutiques. Donc, les gens ont confiance relativement dans l'industrie.
Les gens connaissent mieux Pfizer depuis quelques mois. Probablement. On a appris qui était AstraZeneca, Moderna et BioNTech. Mm-hmm. Mais c'est vrai que des sociétés comme Abbott, qui sont des multinationales, si on ne fait pas affaire avec le pharmaceutique...
Les banques, on le sait, elles veulent votre bien et elles vont l'avoir. On connaît
elles l'ont toujours.
C'est ce que disaient les cyniques il y a 50 ans. Là, c'est encore valable aujourd'hui.
Effectivement. Mais une nouvelle intéressante. Puis la deuxième est tout aussi... Écoute, tu vas me parler, c'est quoi, toi, un jeton non fongible?
Ce n'est pas un nouveau champignon qui pousse quelque part et qu'on verra dans une publicité bizarre à la télé. C'est une nouvelle technologie, en fait. En anglais, on appelle ça des... Non-Fungible Tokens, NFT, de l'acronyme. Donc, des jetons non-fongibles, ce sont des pièces...
On parle-tu de Bitcoin?
Ben, c'est... Oui et non. Ce sont des pièces de monnaie virtuelle qui sont uniques et irremplaçables et qui sont associées à une monnaie numérique, comme le Bitcoin, mais pas le Bitcoin. Les crypto-monnaies, il y en a plusieurs. Il y a le Bitcoin qui est très connu.
Oui, ben c'est le plus connu, probablement.
Exactement. Et la deuxième plus connue s'appelle Ethereum. Et c'est moins une monnaie d'échange, c'est moins la moindre valeur de transaction qu'une plateforme qui pourrait... En gros, là, pour résumer très grossièrement, les applications de l'Ethereum pourraient remplacer les notaires, entre autres, dans certaines applications, parce que ça authentifie des transactions.
OK.
Et les jetons non-fongibles, ils sont non-fongibles parce qu'ils ne peuvent pas être transformés en d'autres choses. Donc, c'est vraiment une unité qui existe en tant que telle et qui peut être associée à un bien numérique. Par exemple, un dessin, un fichier JPEG, pense à ça. Un fichier JPEG, comment tu peux authentifier la propriété d'une image numérique? Parce que ça se copie et ça se recolle facilement.
Très facilement.
C'est relativement impossible depuis un certain temps.
Aux étudiants à l'université.
Exactement.
Pour donner un exemple.
Mais au-delà du fait qu'on peut reproduire à volonté une image, on peut quand même attribuer la propriété de cette image-là grâce aux jetons non fongibles qui sont très émergents dans le secteur de l'art numérique. Ouais. C'est chose depuis quelques semaines.
Oui, puis ça fait du sens parce que il va falloir en venir là. Tu sais, les documents papier vont être de plus en plus rares. On travaille déjà, nous, regarde, dans notre métier, on signe combien de prêts de véhicules via des transactions numériques.
Exactement. Oui. Puis même dans l'auto, on dit souvent, tu sais, il y a beaucoup d'électronique dans la voiture, il y a beaucoup de numérique maintenant, et les voitures sont de plus en plus connectées. Et il y a une raison très simple pour laquelle Apple et Google sont dans la voiture avec CarPlay et Android Auto. Et c'est pas pour vos beaux yeux, malheureusement.
Eh non, vous êtes déçus, là. Je vous vois.
Là, je vais faire un petit clin d'œil. Vous remarquez, tout le monde porte un masque maintenant quand on se déplace?
Effectivement.
Observez les yeux des gens. On fait pas souvent ça, c'est d'habitude,
on voit le masque.
Les gens ont des beaux yeux. On m'a dit ça l'autre jour, puis j'ai remarqué, j'ai porté attention, puis c'est vrai, de façon générale, c'est très vrai.
Oui, ben c'est vrai.
Mais c'est pas pour ça qu'Apple et Google sont en voiture. C'est parce qu'ils collectent l'information sur vos déplacements et en tirent un profit. Le problème, c'est que pour nous, on a l'impression que c'est gratuit et que ça n'a aucun effet. Mais au contraire, on dit souvent dans les technos, en tout cas, que quand vous avez accès à quelque chose, à un produit gratuitement, c'est parce que le produit, c'est pas ce que vous consommez, c'est parce que c'est vous le produit.
Voilà, exactement. Il y a quelqu'un qui a payé pour être capable d'accéder à vous, disons-le comme ça.
Le problème, c'est que les données que nous, on génère, ne nous appartiennent pas dans le contexte actuel parce que ce sont les entreprises qui les collectent, qui les récupèrent et qui les revendent ensuite et qui font de l'argent avec. Et c'est là où le jeton non fongible entre en scène, c'est que il y a des gens qui commencent à penser à comment on pourrait appliquer cette technologie-là dans l'automobile pour que les données qu'on produise en conduisant, tu sais, sur notre utilisation de la voiture, comment on accélère, comment on freine, des choses comme ça, pourraient nous appartenir et qu'on puisse les revendre ensuite aux entreprises qui collectent ces données-là.
OK, on pense loin, là.
Et là, votre cerveau devrait éclater. Ça reste théorique, c'est pas encore applicable, mais imaginez un peu, les assureurs font beaucoup de polices d'assurance basées sur la façon dont on se comporte.
Oui.
Il y en a même qui mettent des petits modules dans les véhicules là, pour réduire la prime d'assurance de leurs clients.
Desjardins, on en a quelques-uns, effectivement.
GM s'en vient avec son Marketplace en voiture, qui est un endroit sur la console, sur l'écran, sur le système multimédia où on pourra acheter des biens et services de commerçants à proximité.
Okay.
Tout ça utilise vos données de localisation, utilise des choses qui vous appartiennent en principe. Et là, les jetons non fongibles pourraient entrer en scène et devenir un outil de transaction. Vous dire, si vous voulez qu'on partage vos données, il va falloir vous payer.
Donc,
et avec ces jetons-là, on pourra le faire.
Si on résume ça simplement, à travers tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'autrement dit, les données que moi j'utilise comme automobiliste... restaurants où je mange, l'endroit où j'achète mes biens et services, etc., qui m'appartient. Mm-hmm. Si je veux qu'une tierce personne puisse l'utiliser, ben les fameux jetons non fongibles me permettent de dire non, c'est à moi. Vous en voulez, parfait, ça va coûter X.
Ouais.
Et ça devient une espèce de monnaie d'échange pour utiliser vos données.
Ces jetons-là vont permettre d'identifier les données et de dire elles vous appartiennent. Et en contrepartie, vous pourrez les revendre effectivement ou autoriser l'utilisation de ces données-là en échange de petit peu d'argent. Donc éventuellement, on va vous payer pour les données que vous générez. Bon. Ce ne sera pas l'année prochaine, mais...
Non, mais le
quand
plus...
on regarde un peu les astres en techno s'aligner, on voit que ça s'en va vers là.
Plus tôt sera mieux que plus tard,
j'imagine. Ah, c'est sûr.
Yamaha, tu connais Yamaha, toi, Alain?
Oui, j'ai un amplificateur de...
Oui, en fait, Yamaha est dans les pianos, la musique. Mm-hmm. Tous les musiciens connaissent Yamaha. Tous les motocyclistes connaissent Yamaha. Tous les amateurs de voitures de performance connaissent Yamaha. On a fait des moteurs pour Ford, on a fait des moteurs pour Volvo. On a participé au fameux moteur V10 de la LFA chez Lexus, parmi les modèles connus. Mm-hmm. Et là, on vient de se lancer. Ben, en fait, on vient pas de se lancer. On s'est lancé déjà depuis 2 ans dans les moteurs électriques, mais là, on a présenté hier un moteur électrique performant.
Okay.
C'est-à-dire que c'est un moteur très compact qui fait 496 chevaux électriques. Il faut bien le préciser, mm-hmm. C'est un moteur électrique. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce moteur-là, c'est son côté très compact. On est capable facilement de mettre 2 moteurs et produire pas loin de 1000 chevaux. On n'a pas encore dit, bon, ce moteur-là va être à tel ou tel endroit, sauf qu'on l'a présenté hier et Yamaha a une très bonne réputation de motoriste.
Est-ce qu'ils ont parlé du couple? Parce que souvent, l'électrique, c'est aussi
C'est ça. Là, il n'y a pas de couple de défini pour le moment, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a été capable de présenter ça et de dire, bon, ben là, pour les gens intéressés, parce que Yamaha est un fournisseur et va souvent mm-hmm. préparer des moteurs pour différents véhicules. Fait qu'il y a probablement quelques jeunes pousses dans l'électrique qui vont regarder ça en se disant, ah, intéressant, moteur déjà prêt, déjà en fonction. Mm-hmm. Donc ça, c'est intéressant pour tous ceux qui se dirigent dans ce domaine-là. Et on le fait beaucoup du côté de chez Yamaha. Autre nouvelle intéressante, il va y avoir des robotaxis à Dubaï. Tu connais Cruise Origin, en fait Cruise qui est la
division de GM.
On parlait de jeune pousse, voilà.
Ben là,
on a annoncé qu'en 2023, il va y avoir du côté des Émirats Arabes Unis, Dubaï, des taxis complètement autonomes avec le Cruise et le Cruise Origin, qui a l'air d'une boîte. Qu'on partage d'ailleurs avec Honda, faut le préciser. Mm-hmm. Honda est sur ce... Et Honda a annoncé que lui va faire la même chose à Tokyo.
Ça va être un autre défi à Tokyo, me semble.
Tokyo, ça va être un bon défi parce qu'il y a du monde à Tokyo.
Les proportions, c'est pas les mêmes.
Au pied carré, là, il y a pas mal plus de monde. Quoique, il y a déjà pas mal de monde à Dubaï. Mais on dit qu'on va commencer ces services-là d'abord et avant tout à San Francisco. Parce que Cruise est originaire de San Francisco. C'est une compagnie de la baie de San Francisco.
Et la Californie autorise ces essais-là depuis 1 an ou 2 déjà.
Voilà, exactement. Mmh. Et on va avoir ces premiers taxis-là là-bas. Et on va déménager tout ça. On devait faire ça l'an dernier, mais là, bon, pandémie, problème d'approvisionnement, etc., etc. On a retardé tout ça, mais on dit qu'on devrait commencer du côté de la Californie à San Francisco et de Tokyo d'ici la fin de l'année 2021, qu'on devrait poursuivre du côté de l'Arabie d'ici 2023.
Il y avait un projet de navette à Montréal, de navette autonome, qui, il y a deux ans, je crois. Puis
je pense que c'est mort quelque part en chemin, mais effectivement. Et là, on va commencer à en voir. Moi, ça me fait toujours penser, je sais pas si les gens qui ont vu le film Total Recall, l'original, quand Arnold Schwarzenegger prend un taxi qui est une espèce de robot avec un sens de l'humour douteux. Mais bon, on est là. Mm-hmm. On est rendu là, il y aura pas de chauffeur, mais on va pouvoir se déplacer là en autonomie dans un avenir assez rapproché. Alors, c'était pour souligner la chose. Nous, on va prendre une petite pause, rapido presto, et on vous revient après avec notre premier invité de RVE, David Corbeil.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Avant de passer à notre invité, je vous rappelle que le balado « Ça tient la route » peut être écouté en ligne sur vos plateformes d'écoute préférées. On parle de Spotify, Apple, Google, sur le site du 98.5fm.ca, dans la section « Balado ». Vous allez voir, il y en a toute une série. Évidemment, sur annuelauto.ca, je fais une mise à jour chaque semaine, on peut aller l'écouter là également. Et si vous avez des questions, on le répète, balado avec un S à 98.5fm.ca. Donc ça, c'est pour nous rejoindre. Notre invité de la semaine, tiens, vous allez aimer ça comme sujet parce que on en a parlé plus qu'une fois à l'émission. Puis moi, j'ai des questions là-dessus assez régulièrement. Que faire des gens qui sont en copropriété, qui ont un condominium, qui restent en appartement et qui n'ont pas accès à une borne de recharge ou que c'est même pas permis dans certains cas, mais qui voudraient avoir un véhicule électrique. Alors, pour répondre à ces questions-là, on a quelqu'un cette semaine qui est en fait président de RVE, qui s'appelle David Corbeil. Monsieur Corbeil, bonjour.
Bonjour, Benoît. Merci de l'invitation.
Ben, ça fait grand plaisir. Je pense que vous allez répondre à beaucoup de questions que beaucoup d'auditeurs se posent.
Oui, parce qu'on va traiter du code du bâtiment quand même. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent dans une émission automobile.
C'est vrai, puis ça va avoir son importance. D'abord, dites-nous, M. Corbeil, c'est qui ça, RVE? Parlez-nous un peu de la compagnie, comment c'est venu au monde et c'est quoi un peu les objectifs et la mission de l'entreprise?
Certainement. Donc, j'ai cofondé RVE avec ma sœur Marie-Pierre en 2015, avec pour objectif d'augmenter l'accessibilité de la recharge à domicile et plus spécifiquement en multilogement. Okay. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a développé une expertise dans le domaine de l'infrastructure de recharge au niveau du multirésidentiel. Donc, autant pour les nouveaux immeubles qui veulent se préparer à l'accueil des véhicules électriques que pour les immeubles existants.
OK, puis ça, c'est intéressant. Donc, vous visez, bon, évidemment, on pense à Montréal, parce que c'est, je pense que c'est la première endroit qui nous vient dans la tête, mais c'est bon pour tous les milieux.
C'est tous les blocs à multilogement, donc les condos et les blocs appartements aussi, parce que l'idée, c'est de faire le lien. Je pense que le problème, concrètement, c'est que souvent, la case de stationnement n'est pas liée à la bonne facture d'Hydro-Québec nécessairement, ou installer la borne. Je pense que c'est un peu ça la base. Et l'idée chez RVE, M. Corbeil, vous m'expliquerez, mais c'est effectivement de faire le lien entre la borne et le bon propriétaire, en fin de compte.
Oui, c'est exactement ça. Donc, la prémisse, c'est sûr que nous, on se concentre sur les gens qui ont déjà un stationnement. Donc, malheureusement, on ne se concentre pas sur les gens qui sont en multilogement, mais qui se stationnent sur rue, par exemple.
Mm-hmm. Okay.
Pour eux, il y a déjà Hydro-Québec qui développe des bornes sur rue qui vont permettre l'accès à la recharge. De notre côté, on cherche à justement lier l'espace de stationnement à la bonne source d'alimentation de façon à ce qu'Hydro-Québec puisse refacturer la bonne personne, parce qu'on sait toujours qu'Hydro-Québec n'oublie pas de refacturer l'électricité.
Non,
il oui, faut juste qu'il le facture à la bonne personne.
Avec un brin d'ironie, oui, effectivement.
Exact.
Là, on parlait tantôt, parce que les copropriétés, c'est pas toujours simple. Il y a des syndicats qui sont impliqués là-dedans, il y a des syndicats de copropriétés qui ne veulent pas avoir d'installation de bornes. Comment est-ce que vous arrivez d'abord, un, à rencontrer ces gens-là, et deux, à contourner le problème?
Ben, c'est vrai que la structure administrative là, des copropriétés, elle n'est pas simple. Puis ça prend une masse critique souvent pour avoir un projet comme ça qui est assez structurant pour un immeuble de copropriété pour aller de l'avant. Puis souvent, on va utiliser l'exemple des nouveaux immeubles pour, disons, aider comme levier. Parce que de plus en plus, puis c'est pas parfait, mais de plus en plus, les nouveaux immeubles prévoient certains promoteurs là, innovants comme Prével, prévoient 100% de leur case de stationnement comme étant prêt à la recharge. Donc, la question tourne de plus en plus au niveau du marché de l'immobilier, bien plus que combien il va y avoir de véhicules électriques l'année prochaine dans l'immeuble, par exemple.
OK.
Parce que qui va vouloir d'un condo dans 10 ans avec un espace de stationnement qui ne peut pas être électrifié? Va être beaucoup moins attrayant pour le marché de l'immobilier.
Oui, c'est en prévision d'une demande à venir, effectivement. Puis, d'ailleurs, c'est ça, c'est que quand on dit les nouveaux bâtiments vont être conçus prêts à la recharge, c'est-à-dire que tout va être disponible pour imposer une borne à la case de stationnement qu'on possède en tant que locataire ou copropriétaire pour pouvoir se brancher facilement.
Bien, il y a une dichotomie dans le marché. Donc, présentement, c'est laissé, le marché décide. Donc, certains développeurs immobiliers vont être très proactifs et vont le prévoir à la construction. Et d'autres sont plus réactifs. Donc, on croit qu'il y a vraiment une nécessité là, au niveau des municipalités et même du provincial de légiférer pour s'assurer que le standard soit soit mise à niveau, comme ils l'ont fait pour les maisons unifamiliales où c'est maintenant obligatoire dans les nouveaux immeubles.
Bon, donnez-nous des exemples concrets, M. Corbeil, de gestes que vous avez faits, de projets que vous avez mis de l'avant, là, qui ont finalement abouti, qui ont amélioré ou qui ont donné accès à des copropriétaires, à des bornes de recharge.
Oui, certainement. Donc, un de nos projets, on a développé la plateforme éducative Murbly.com, donc Murbly.com,
okay.
Qui est un outil dédié aux syndicats de copropriété pour les accompagner dans le processus d'accueil des véhicules électriques. Donc, on les prend par la main vraiment, là, on leur donne tous les outils pour se préparer à l'accueil. Puis on a développé là, cette méthode-là qui est maintenant implantée dans plus de 500 immeubles à travers le Québec.
Ah oui.
Et plusieurs centaines là, partout en Amérique du Nord.
OK.
Ouais. Ben, on le voit souvent en banlieue, des copropriétés vont être étalées, c'est plusieurs bâtiments sur un espace, sur un terrain donné, par exemple. Et là, il y a des cases de stationnement un peu comme on peut penser en banlieue, là, comme une entrée séparée pour chacun des copropriétaires. Et souvent, effectivement, j'imagine, est-ce que c'est une question de coût? Qu'est-ce qui est le frein au niveau des copropriétaires? Qu'est-ce qui fait qu'un syndicat va s'opposer à ce qu'un des copropriétaires installe une borne chez lui?
Dans l'exemple que tu viens de mentionner, Alain, c'est un exemple peut-être un petit peu plus simple où on est dans un petit immeuble et où peut-être le panneau électrique va être assez proche de l'espace de stationnement.
Mm-hmm.
Donc, si les coûts peuvent être attribués en totalité au demandeur qui veut une borne pour sa voiture, généralement, c'est pas trop compliqué. C'est plutôt dans les immeubles comme à l'Île des Sœurs où on a des immeubles en hauteur avec beaucoup, beaucoup de cases de stationnement. Et une infrastructure peut-être un petit peu plus âgée, mais là, la complexité technique est beaucoup plus grande, puis il y a plus de considérations à prendre en compte.
Oui, parce qu'il y a des dépenses additionnelles qui s'ajoutent, puis ça complique un peu l'affaire pour tout le monde.
OK, c'est intéressant. Les bornes, là, comment on fonctionne? Parce qu'on sait qu'il y a un coût à installer une borne électrique, une borne de recharge. Éventuellement, est-ce que, bon, pour convaincre les gens, on parlait tantôt que on voit mal comment on va pouvoir revendre une copropriété dans 10-12 ans qui n'a pas une borne de recharge. On s'y prend comment pour convaincre ces gens-là? Est-ce qu'on parle d'un investissement qui va rapporter, qui va donner une valeur ajoutée quand on va revendre sa propriété? On y va comment au juste?
Ben, c'est un peu comme il y a quelques décennies où on voyait des annonces logement avec entrée laveuse sécheuse.
Ou voiture avec les frais ABS.
C'est très vrai. Ben oui, c'est une belle comparaison.
C'est ça. Exactement. Donc, c'est un des bons parallèles là, qu'on voit en ce moment. C'est que bientôt, ça va être la norme. Tu sais, le gouvernement a annoncé là, l'interdiction de vendre des voitures à essence d'ici 2035.
Mm-hmm.
Donc, ce changement-là ben, va amener à revoir la façon de penser. Puis d'augmenter l'importance là, que tous les espaces de stationnement dédiés puissent permettre la recharge.
Je sais qu'on s'était parlé il y a un petit bout de temps, David, puis on avait discuté du fait, je ne sais pas si vous le faites encore, vous faisiez une espèce de petit module qui se branchait dans un panneau électrique qui bon, dont le terme technique m'échappe, là, mais qui permet de d'alterner entre, mettons, disons,
DCC,
une sécheuse ou un truc dans le genre, et sa borne de recharge, quand on a, parce que souvent les vieilles maisons vont avoir une entrée électrique chargée, déjà entièrement occupée. Est-ce qu'il revient moins cher que de faire élargir son panneau? Est-ce que vous faites encore ça?
Oui, absolument. C'est notre gagne-pain quotidien. On vend cette solution-là partout en Amérique du Nord, donc dans 5 provinces canadiennes et 24 États américains.
Okay.
Ce système-là, effectivement, va permettre d'éviter de grosser l'entrée électrique, donc qu'on soit en maison unifamiliale ou en copropriété, puis s'assurer que la recharge a lieu quand il n'y a pas tous les appareils du domicile comme la cuisinière, la sécheuse, un peu comme tu disais, qui sont en utilisation.
Ouais. Là, je regarde la compagnie, on se projette dans l'avenir, on se met dans 5 ans. Là. On voit RVEU dans 5 ans. Est-ce qu'on est encore à convaincre des gros propriétaires ou on est passé à une prochaine étape?
RVE dans 5 ans, on va continuer à convaincre des copropriétaires. Peut-être davantage dans d'autres marchés. Donc, présentement, on travaille notre exportation vers la Colombie-Britannique et la Californie.
Ah oui.
C'est là où on met de plus en plus d'énergie. On a la chance d'avoir un brevet sur notre solution.
Ah oui, ça c'est intéressant, donc, par exemple. Okay.
On est très unique dans ce qu'on fait. Donc, on a une belle fenêtre là, devant nous pour aller avoir une portée nord-américaine. Donc, on en est là.
Il y a encore pas mal d'Américains à convaincre, je pense.
Ça, c'est certain. On va éviter le Texas pour quelques années.
Oui. C'est peut-être une bonne idée pour le moment, mais je pense que... Non, il y a des États, je pense. Je pense au Vermont, qui est tout près de chez nous, qui est sûrement un des États qui est ouvert à ce genre de choses. La Californie, bon, évidemment... C'est su. Puis il y a d'autres États américains, là, je dirais, un peu plus.
Il y a un frein étonnant à l'adoption des voitures électriques, puis c'est effectivement ça. C'est que c'est pas tous les gens qui sont propriétaires de leur logement, peu importe, qui ont l'espace ou la capacité d'installer une borne. Puis une borne, sérieusement, ça fait une différence parce qu'une voiture électrique que tu branches dans une prise de courant ordinaire, c'est long à charger.
Non, puis il faut pas oublier que le Canada, on est seulement 34 millions. Il y a 360 et quelques millions d'Américains. Puis des villes d'un million d'habitants aux États-Unis, chaque État en a au moins quelques-uns. Mm-hmm. Alors, ça fait des agglomérations importantes partout où on peut justement répandre la bonne nouvelle, disons-le comme ça.
Ouais.
Effectivement, de donner un exemple, là, l'ajout de la borne de recharge pour un domicile moyen en Californie ou un condo à Montréal, c'est environ 40 % de la capacité supplémentaire qu'on aurait besoin.
Donc,
s'il n'y a pas un système de gestion d'énergie qui est mis en place, c'est de grossir les entrées électriques, puis en bout de ligne, c'est Hydro-Québec qui ne sera pas content.
Et les
poches du consommateur.
Puis à un moment donné, puis c'est d'autrement important, le Québec a quand même la chance d'avoir une électricité propre.
Et pas très cher, sauf
qu'aux États-Unis, l'électricité est souvent encore, aujourd'hui, produite au charbon, au nucléaire, et coûte très, très cher. Donc, la possibilité, comme vous dites, de réduire la charge devient extrêmement importante. En tout cas, c'était très intéressant, M. Corbeil. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Puis, on va suivre le dossier de RVE avec un grand plaisir. Alors, c'était M. David Corbeil, qui est président de RVE, qui nous parlait aujourd'hui d'un système qui aide à brancher les bornes dans des contextes de copropriété. Alors, un grand merci et à une prochaine, on se le souhaite.
Au plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Bon, ben voilà, troisième bloc, on est dans nos essais routiers.
Voilà.
Et pas de stress cette semaine parce qu'on est en balado. Le match de
on
hockey
entre
va
nous.
Remplacer. On est entre
exactement.
Nous, exactement. Le match de hockey va remplacer notre émission exceptionnellement pour cette semaine. Alors, évidemment, on cède la place aux Canadiens. Hein?
Oh.
On n'est pas de taille avec le Canadien.
On ne fait pas un blog sportif, mais de la façon qu'il joue de ce temps-là. On va laisser ça à la poche bleue.
C'est cela. On va laisser ça à la poche bleue, effectivement. Qui sont plus ferrés que nous en la matière.
Ouais.
Alain, t'as essayé le Nissan Versa.
Oui.
Qui s'est refait de beauté. C'est un tout nouveau modèle qu'on nous a amené l'an dernier.
Oui. Donc, devient le véhicule d'entrée de gamme de Nissan, parce que la Micra disparaît. Et en fait, je l'ai pensé comme ça, mais à mon avis, c'est sans aucun doute une des voitures préférées de Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement du Québec. Mais je pense que c'est peut-être pas la voiture préférée de Benoît Charrette, le chroniqueur automobile.
Écoute, je l'ai pas détesté.
Pour un détail, en fait, parce que effectivement, c'est une voiture qui vaut la peine d'être considérée.
Oui.
Pour monsieur le ministre, je pense que l'intérêt vient du fait que ce n'est pas un VUS, donc c'est pas un véhicule qui pollue plus que la moyenne et qui est apparemment dans la cible des gens qui ciblent la publicité automobile en ce moment et qui critiquent beaucoup le fait qu'il y a en tout cas de la publicité qui fait la promotion de véhicules.
Exact.
Ils sont très habiles
en
hors-piste.
Oui.
Et que les gens achètent pour la ville, donc.
J'ai donné mon opinion à Gérald Fignon là-dessus, d'ailleurs.
Ben voilà. Et puis, même si Nissan fait de la publicité pour la Versa, ça ne fera pas augmenter les émissions de GES de la province.
Non.
De gaz à effet de serre. Évidemment, c'est tout le contraire. Mais pour mon bon ami l'animateur, Benoît, c'est une voiture qui a pour principale caractéristique de recourir à une boîte de transmission à variation continue, la fameuse CVT X-Tronic
de Nissan, que tu aimes beaucoup. La fameuse boîte de Jetco. Mais là, J'ai bon espoir que leur contrat achève. Parce que là, dans les nouveautés qu'on voit de 2022, le Frontier, le Pathfinder, on a recours à une boîte automatique à 9 rapports.
Voilà.
Plus de boîte CVT de chez Jetco.
Je pense qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Parce que... Puis une CVT, c'est bon pour réduire la consommation, rendre la rendre l'accélération plus linéaire, peut-être pas aussi excitante qu'une boîte justement à multiples rapports. Et Nissan s'en est un peu rendu compte parce que sur le modèle, premièrement, il y a une boîte manuelle sur la Versa cette année.
Oui.
Sur le modèle de base seulement, mais c'est une manuelle à 5 rapports, ça fait un peu vétuste. Puis je veux dire, je suis pas un gros fan des modèles de base comme celui-là, mais ça peut intéresser des gens qui s'ennuient du fameux.
Oui, mais à 5 vitesses, il en manque une. On se comprend. Bon, exactement. C'est vrai que les rapports sont plus longs, que ça compense partiellement, mais il en manque encore.
On est rendu à un stade où, effectivement, une belle boîte à 6 rapports peut faire la différence.
Ben absolument.
Et justement, pour la CVT, Nissan a entendu les critiques et a réglé sa CVT pour qu'elle adopte des rapports précis durant l'accélération. Donc, c'est un peu une espèce de compromis.
Ouais, t'as des faux changements de vitesse.
Exactement.
Appelons ça comme ça.
Puis, on le remarque parce que la boîte tient son rapport à mesure qu'on appuie sur l'accélérateur et évidemment fait monter le régime et le bruit surtout du 4 cylindres. C'est un 4 cylindres de 1,6 litres qui est sous le capot et qui est attaché évidemment à l'autre bout de l'arbre de transmission. Puis ce moteur-là pousse une note juste assez aiguë pour être vraiment désagréable. Donc on n'a pas le goût d'accélérer tant que ça.
Ben, en fait, moi je dis toujours la même chose à propos des CVT. Une CVT est intéressante dans la mesure où on roule à un train de sénateur, qu'on accélère jamais vite et qu'on reste sur des routes qui sont pas trop maganées. Alors si vous arrivez à faire ça, vous allez bien vivre avec une CVT. Mais si vous arrivez sur une bretelle d'autoroute que vous devez dépasser, un petit chemin de campagne où vous passez un véhicule, où vous devez faire une accélération, il y a un moment pénible à passer, le temps qu'on se rende à la vitesse qu'on veut aller.
Il y a un moment à passer, effectivement. Bon. Et la CVT fait très bien sous le pont d'une motoneige ou même, je pense, dans un avion, par exemple.
Oui, oui.
Mais pas dans une auto. Je peux comprendre le point de vue.
Exact.
Cela dit, parce qu'effectivement, à la fin de la journée, la Sentra, ah, tu vois le lapsus? La Versa avec une boîte CVT ne consomme en moyenne qu'environ 6,5 litres aux 100 km. Et je pense que l'objectif à la fin de la journée pour Nissan, c'était ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la CVT est revenue chez Nissan, en fait, il y a comme 15 ans. C'était pour
la CVT, réduire la consommation. Tu disais tantôt, la 100%. CVT a plein d'avantages. C'est une boîte qui a beaucoup moins de pièces, donc qui coûte moins cher à fabriquer. C'est une boîte qui est plus facile d'entretien et qui fait économiser du carburant. Donc,
plus compact.
Difficile de dire non, puis Nissan n'est pas le seul. Là. Mm-hmm. Tout le monde a embarqué dans ce bateau-là, ou en tout cas, beaucoup de monde l'ont fait.
La plupart des constructeurs, effectivement.
Certains avec plus de succès que d'autres avec des meilleures boîtes.
Ça, c'est un gros point.
Subaru, pour en nommer une, a des très bonnes boîtes CVT. Ouais. Mitsubishi a des très bonnes boîtes CVT. Donc, on a réussi à faire quelque chose de bien avec ça. Sauf que Nissan ont eu des problèmes avec leur boîte CVT et parler à n'importe quel atelier de réparation qui répare des véhicules, ils vous diront que les boîtes CVT de Nissan reviennent très souvent dans les garages. Ça a été un problème. Et là, je pense que même Nissan, qui doit avoir, j'espère qu'il a fini son contrat avec Jeffco, là, je ne sais plus depuis combien de temps ça dure, mais on commence à s'éloigner de ça pour ramener des boîtes à 9 rapports qui vont, un, donner des meilleurs résultats au point de vue de la fiabilité, deux, qui vont donner à peu près les mêmes résultats au point de vue économie de carburant. Là, ça, on parle de rien là, de différence, ça va être insignifiant, et qui va immensément plus agréable à conduire. Ça va être la grosse différence.
Ben, des CVT sur des VUS, c'est un peu bizarre, mais probablement que sur des petites voitures comme ça, ça a plus de place qu'une boîte à 9 rapports. Mais effectivement, c'est sûr que l'objectif étant de réduire la consommation, ici, on marque la cible définitivement. Surtout quand, tu sais, 6,5 litres au 100 en moyenne, là, dans la vraie vie que j'ai essayé depuis 2 jours, pour une voiture non hybride, c'est quand même pas rien, parce que la plupart des voitures arrivent à ça avec un petit moteur électrique. Mazda
exactement.
Arrive à peu près à la même chose, mais on voit pas ça souvent. Là.
Non. Tu sais, les résultats sont là. Fait que, si vous êtes quelqu'un qui prenait une voiture comme ça, qui roulait un 10-12 000 km par année, qui vont jamais très loin de la maison, qui conduisent jamais rapidement, qui font pas d'accélération soudaine, tout ça, vous allez être très heureux.
Exactement. Surtout pour le prix, parce que le prix de détail, bon, le modèle de base, personnellement, je n'en tiendrais pas trop compte, là, même si ça commence un petit peu en dessous de 19 000.
Ouais.
L'édition un peu plus équipée est à environ 20 000, mais l'édition SR, qui est la mieux équipée, coûte pas tout à fait 23 000 $ avant les taxes. Et ça inclut le transport et tout le reste.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'équipement qui équivaut facilement à un VUS de 7-8 000 $ de plus. Là.
Exactement. C'est un très bon prix. Et on dit c'est une petite berline, mais c'est une petite berline étonnamment logeable, considérant qu'il s'agit en plus du modèle d'entrée de gamme de Nissan. L'édition 2021 de la Versa, évidemment, est un petit peu plus grosse que sa prédécesseur. Et ça lui permet d'avoir, juste un seul chiffre, 425 litres de volume au niveau du coffre, qui est quand même assez gros pour une voiture de cette taille-là. Et en plus, on peut rabattre la banquette en deux formats, le fameux 40-60 pour à croître. Et la banquette, en passant, est assez logeable pour deux adultes sans problème. Le véhicule, la voiture, c'est quand même un format assez vertical au niveau de l'habitacle. Ouais. Donc, le dégagement est assez généreux à l'arrière. Ce qui en fait une voiture qui... tu sais, tous les gens vont dire « Ah, moi, je veux un VUS pour l'espace utile et tout le reste. » Puis à la fin de la journée, cette voiture-là fait la job pour le format dans lequel elle se situe. Là. Évidemment, vu le prix, il ne faut pas s'attendre à une voiture très high-tech. Les commandes sont très classiques. Le système de son est minimal et d'une ancienne génération. Pour vous dire, CarPlay et Android Auto sont absents de la Versa de base, sont vendus dans le kit, dans l'ensemble, ouais. Juste au-dessus, en option.
Exact.
Donc, c'est pas exactement le dernier cri à ce niveau-là, mais bon, évidemment, je serais surpris que la plupart des gens achètent le modèle de base, là, mais dans l'ensemble, pour le prix, écoute, c'est une belle nouveauté, abordable et utile et qui va faire plaisir.
Oui, puis j'encourage les gens, il n'y a pas juste des VUS sur la route, Seigneur. Et ouais, puis, on n'a pas nécessairement besoin d'un VUS. Et on comprend les compagnies automobiles d'aller vers les VUS parce qu'il reste plus d'argent dans leur poche à la fin de la journée. Ce modèle-là, si vous avez besoin d'un moyen de transport du point A au point B qui va faire le travail, qui va être fiable, qui ne vous coûtera pas trop cher, ouais. On a tout ça là. Et une traction l'hiver avec des bons pneus fait de l'excellent.
C'est ce que j'allais dire. On a l'impression que ça nous prend quatre roues motrices freiner ou bien décoller dans la neige, alors qu'en fin de compte, ça prend
vraiment
juste des bons pneus.
Je ne recommande pas une propulsion l'hiver. On se comprend que ce n'est pas l'idéal, mais une traction avec des bons pneus, là, écoutez, non. Là, on, les automobiles n'ont pas été inventées hier, puis on s'est débrouillé dans les années 50, exact. 60, 70, 80.
Et le nombre de roues motrices n'a rien à voir avec le fait qu'on puisse freiner sur la glace. Parce que non les plus. Freins et les roues motrices, ce n'est pas la même chose.
Non, donc, non.
Voilà. Mais effectivement, petite voiture abordable, facilement recommandable dans sa catégorie. Avec, pensez-y, là, achetez pas un VUS, achetez ça et avec l'argent économisé, achetez des bons pneus d'hiver.
Absolument. Et vous allez pouvoir acheter une coupe de pneus d'hiver.
Ouais, quelques jeux. Pour la durée utile du véhicule.
Absolument. Moi, je suis allé dans le VUS parce que là, ça, je ne sais pas, de ce temps-là, j'ai presque juste des VUS.
Ben, moi, j'ai bien aimé celui-là la dernière fois que je l'ai essayé. Donc, il doit être.
CX-9.
Il y a quelque chose, oui.
Bon, CX-9, ça fait, écoute, on dirait que ça fait plusieurs années. Il était lancé en 2017. Donc, ça fait pas si longtemps que ça.
Pour vrai?
Pour vrai.
C'est vrai, j'avais l'impression que
c'est sa quatrième année. Il a pas bougé depuis 4 ans. Sauf que, avec la vitesse grand V dans le domaine des utilitaires qu'on voit 4 ans, ça a presque déjà l'air vieux.
Ouais.
Là, cette année, ou en fait, c'est la fin de l'année passée, cette année, en fait, pour 2021, on a amené une édition Kuro qui s'appelle la Carbon en anglais. Fouillez-moi pourquoi, là. Mais
Kuro, c'est du japonais, ça?
Kuro, c'est du japonais. Okay. Je me rappelle plus c'est quoi. C'est Kuro? Q-U-R-O. Oh. C'est l'édition que j'avais à l'essai. Puis il y a une édition 100e anniversaire. Vous me dites, voyons donc, ça fait pas 100 ans que Mazda fait des autos. Vous avez absolument raison. Ça fait pas 100 ans que Mazda fait des autos. Mais la compagnie Mazda a été fondée en 1922. Donc, on fêtera en 2022 les 100 ans de la compagnie. Donc, c'est quoi le Kuro? En fait, c'est basé sur une édition GT et on a ajouté des petites choses dans le véhicule.
Ça veut dire noir.
Ah bon?
Kuro veut dire noir. Donc, carbone est pas loin d'être
okay.
noir.
OK. Ah, d'accord. Bon, mais Kuro qui est noir. Bon, mais merci de l'explication, M. Mécanat.
Ça fait plaisir.
Le modèle était pas tout à fait noir. Les roues étaient noires, par exemple. C'est un modèle, ben, en fait, de loin, on pourrait penser qu'il est noir. C'est une espèce de gris très foncé. Qui avait même qui penchait sur le vert quand on regardait sous certains angles.
Ah bon?
Paulet, ce que j'aime du CX-9, c'est qu'on a gardé, malgré le format, le côté dynamique de la conduite des modèles Mazda. Mm-hmm. Le moteur 2.5 litres turbo qui fait 227 chevaux, selon, en fait, 227 chevaux si on met de l'essence ordinaire et 250 chevaux si on met de l'essence super. Va vous amener à des performances qui sont tout à fait honnêtes. Mais il faut savoir à qui on s'adresse. Parce que si vous regardez, l'édition Kuro que j'avais, là, était à plus de 50 000 $. On était à 52 000.
Oh, ça monte vite, dis-donc.
Oui, ça va
vite.
Oui,
quand même.
Et à 52 000 $, si vous me demandiez, t'achèterais quoi? Par les temps qui courent, j'achèterais un Kia Telluride ou un Hyundai Palisade.
Tant qu'à faire dans les gros VUS, effectivement.
Si vous avez besoin d'un 3-places, vous allez me dire, ouais, mais CX-9, c'est un 3-places. Moi, j'appelle ça un 5+2.
Ouais, 3 rangées de sièges.
Il y a 3 rangées de sièges. C'est drôle parce que j'ai un voisin qui vient tout juste d'en acheter une. Il a 2 enfants de 4 et 6 ans. Il s'assoit dans la 3e rangée puis on a du fun. pour les deux prochaines années, ils vont
J'ai
être bien du
la
fun.
Même chose.
Et oui. après ça, il va falloir qu'ils passent à la deuxième rangée. Mm-hmm. Mais si c'est votre cas, comme ça, c'est bon. Mais si vous voulez réellement vous servir d'une troisième rangée de façon régulière, c'est pas le véhicule idéal. Par contre, ce véhicule-là, à la conduite, est beaucoup plus petit qu'il ne paraît. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression de format assez imposant quand on le conduit. C'est assez compact à conduire. Le volant est intéressant, la direction est dynamique et les 250 chevaux, parce que je l'ai roulé au super, sont là. T'sais, sont là, sont plaisants, sont le fun. J'aime aussi l'intérieur. On a beaucoup, beaucoup travaillé l'intérieur de ce modèle-là. La seule chose que j'aime moins, c'est le système d'infodivertissement. On a encore l'ancienne génération chez Mazda où t'as pas un écran tactile, où tu dois changer les menus avec la Moses de molette qui est dans la console centrale.
qui était innovatrice à l'époque, mais qui a ouais, c'est ça qui arrive.
Mais tu le sais comme moi, Alain, t'es en techno, l'infodivertissement, la technologie, là, écoute, si tu ça lis pas vite. tes références une semaine, tu viens de manquer trois innovations. ça va extrêmement vite et comme tu as raison, ce qui était intéressant il y a 4 ans, parce qu'on a amené ça quand le modèle est sorti et on l'a amené dans le MX-5, dans la 6, dans la 3. Là, le problème, c'est que d'abord, faut prendre la molette, choisir, c'est un menu déroulant là en demi-cercle, faut choisir un des éléments, cliquer sur l'élément et à partir de là, retourner dans un second menu pour avoir accès à ce qu'on veut. Mm-hmm. Quand on conduit, là, c'est trop long, ça.
C'est long. Je pense qu'il faut faire. Je sais même pas s'ils ont la mise à jour pour avoir
CarPlay. Non, ils en ont pas.
Ça a pris du temps, puis ils l'ont eu sur un modèle.
Exactement. La chose qui est intéressante, c'est qu'aux États-Unis, on a le nouveau système de Mazda cette année, qu'on n'a pas encore. J'ose espérer que l'année prochaine, on va arriver chez nous avec ça. Parce que la beauté d'un écran tactile, c'est que quand son menu est un peu long, tu pousses, cliques sur l'écran puis t'es rendu. Donc ça, t'as des raccourcis qui sont intéressants et ce système-là est un petit peu long. Mais honnêtement, c'est ma seule critique en ce qui concerne l'intérieur.
Je veux dire, j'ai été chanceux, puis si tu me permets, je vais faire une courte parenthèse. Je l'ai eu pendant 3 semaines alors que je faisais le tour de la Colombie-Britannique en famille.
Tu l'as roulé pour le vrai.
Et
là.
Honnêtement, j'ai pas détesté l'aménagement, même si le coffre est à peu près inexistant quand on relève.
Alors, il y en a pas. Et tu mets une valise debout, il faut pas qu'elle soit trop large.
C'est ça,
fait que
c'est un petit peu juste. Le seul, je veux dire, le défaut qui est dur à remarquer quand on vient juste de l'avoir, c'est la ventilation est un peu déficiente dans ce véhicule-là. Les gens qui aiment ça être toujours à 21 degrés pile, et ils vont rager un peu, ce qui est un drôle de défaut, mais c'est quand même présent. Mais sinon, effectivement, véhicule extrêmement confortable.
Alors, plaisant à rouler. Donc, moi, oui, je le recommande. Mais je le recommande à quelqu'un, tu sais, il y a une clientèle précise pour ce véhicule-là, parce que à plus de 50 000 $, c'est pas le plus logeable.
Ouais.
Donc, ça vous prend un véhicule que vous allez dire, moi, je vais privilégier la conduite plutôt que l'espace. Et ça n'a pas le côté un peu opulent qu'on trouve pour le même prix dans des Allemands, par exemple.
Ben, Mazda se définit un peu comme presque du luxe, genre.
C'est ça. En fait, c'est presque du luxe, mais tu sais, à force de vouloir chercher des niches, maintenant, on en bâtit une qui aura pas personne qui va venir s'installer dedans.
Mais là, tu l'as bien dit, en entrée de jeu, ce véhicule-là commence à être un petit peu âgé, peut-être.
Bon, alors, il y aura du travail à faire parce que ce créneau-là a beaucoup bougé depuis 5 ans et il y aura des ajustements à faire. On a ajouté quelques nouveautés pour, on appelle ça poliment, étirer la sauce pour l'amener jusqu'à la prochaine génération. Cela dit, si vous voulez payer moins cher, il y a des versions moins onéreuses qui vont vous donner un aussi bon rendement parce qu'il y a un moteur pour tout le monde.
Ben oui,
alors, donc, vous n'aurez pas moins de moteurs, vous allez avoir la même chose. Vous allez avoir un peu moins d'équipement, mais il y a des mises à jour à faire. Mais si je vous le recommande absolument, c'est un véhicule qui est intéressant puis qui va vous amener à bon port et qui a une bonne fiabilité. Donc, sur le long terme, ça va rester un véhicule intéressant à posséder. Alors, la moyenne, j'ai terminé ma semaine à 11,1 litres au 100, qui est correct. J'oserais pas dire bon, parce que pour un 4 cylindres, c'est
un peu lourd,
Mais le poids est conséquent. C'est quand même un assez gros véhicule. Puis le 2,5 litres, c'est quand même un assez gros 4 cylindres. On n'a pas un 2 litres.
Non, c'est ça.
Mais du 11 dans un format comme celui-là, c'est correct, ça, c'est dans la bonne moyenne. Voilà, qui est un véhicule familial avant tout. Donc, ça termine nos essais pour cette semaine. Je tiens à vous dire que la semaine prochaine, tiens, j'ai un Mustang Mach-E.
Ah, l'essai
cette semaine.
Ah oui.
Alors, c'est de ça qu'on va vous parler la semaine prochaine à l'émission. Et j'ai peut-être un
Fais un non-essai la semaine prochaine.
C'est-à-dire?
Je vais essayer l'escalade avec le nouveau système de conduite autonome Super Cruise.
Oh, tu vas nous parler de ça.
Je vais
vous
parler de comment je n'ai pas conduit l'escalade. J'ai hâte de voir. Écoute, si je suis au micro la semaine prochaine, c'est parce que j'ai survécu.
Bon, ben parfait. Alors, on s'en parle. Soyez prudents sur la route. On se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C23.